Nous ouvrons la Bible, cette parole que Dieu nous adresse, et je vous invite à lire dans un texte que l'apôtre Paul a écrit à des chrétiens d'une ville qui s'appelait Colosse, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Nous lisons deux versets, les versets 6 et 7. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, le Christ Jésus, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. C'est ce que nous voulons commenter rapidement. Quelle perspective de vie s'offre à un chrétien à partir de son baptême ? Vers quoi aller? Comment considérer la suite? Héloïse nous a dit très clairement que pour elle, son baptême n'était pas un aboutissement, mais un commencement. Cette journée ne marque pas la fin de mon chemin spirituel, mais au contraire, le début d'une nouvelle vie. Je la cite, on la cite déjà. Comment la considérer, cette vie nouvelle qui s'ouvre, marquée par une affirmation de foi, par un engagement public à vivre de manière aussi cohérente que possible. La question, bien entendu, ne vaut pas uniquement pour Héloïse. Elle nous concerne tous si nous avons à cœur de vivre ce que Dieu nous propose. Demain, après-demain, vers quoi aller? Le texte que nous avons lu s'adresse dans son contexte à des gens pour qui la foi chrétienne était quelque chose de tout nouveau. Il venait d'un arrière-plan fait, on va dire, de croyances religieuses un petit peu à la carte, et dans un système où les valeurs étaient données par l'Empire romain et la paix romaine. Vous savez, cette paix-là, ce que refusaient, à ce qu'on dit, certains irréductibles gaulois. Cette paix romaine, cette Pax Romana, était avant tout un mode de vie, une invitation à la consommation avec ses fêtes, ses symboles, ses produits dérivés, dans une perspective d'échange mondialisé. Et c'est au milieu de tout cela, qui ressemble quand même un peu à ce que nous connaissons, que l'apôtre donne des valeurs pour la vie. Et il invite les chrétiens à découvrir au cœur de ce contexte les ressources qu'apporte la foi. Et il la décrit sous trois facettes, comme un enracinement, comme une marche et comme une joie. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi et abondé en actions de grâce. Un enracinement d'abord. On dit souvent que pour pouvoir prendre son envol dans la vie, il faut avoir une base personnelle bien fondée. D'où l'expression des racines et des ailes. Ce principe s'applique à la vie courante, au développement de quiconque. Il s'applique aussi à la vie spirituelle, à la croissance de la vie avec Dieu. C'est uniquement quand on est enraciné et fondé dans le Christ qu'on pourra marcher avec lui et marcher en lui. Et le Christ veut affermir en nous, en quelque sorte, une bonne identité, nous assurer un bon ancrage, pour nous permettre à partir de là de pouvoir grandir et prendre en quelque sorte notre envol, des racines et des ailes. La première composante de cette base qui nous est donnée, c'est la relation. Vous avez reçu le Christ Jésus, dit l'apôtre Paul. Vous l'avez accepté, vous l'avez accueilli. Nous venons d'assister au baptême d'Héloïse, il est important de rappeler que ce n'est pas un rite religieux qui fait de nous un chrétien. C'est une ouverture personnelle à la foi. C'est une relation que l'on commence et que l'on entretient avec Dieu qui est un Dieu vivant et qui veut justement ça avec nous. Et recevoir le Christ Jésus, c'est reconnaître que Jésus n'est pas juste un homme remarquable, un sage, mais qu'il est plus que cela. Il est Dieu venu vers nous, Dieu qui s'est fait proche de nous. Dieu venu marquer son intérêt pour nous, vraiment. un intérêt très personnel, tout comme on voit dans les évangiles le Christ qui est tout près de chacun de ceux, de celles qu'il rencontrait dans la vie de tous les jours. Recevoir, accepter le Christ Jésus, c'est aussi recevoir et accepter ce que Jésus a fait pour nous. Au centre de la foi chrétienne, il y a un symbole qui est la croix, mais qui dit aussi la réalité centrale qui fait la foi. Le Christ est venu, le Christ a été crucifié, il est mort. Il est mort pour payer le prix de nos offenses, d'une certaine façon. Il a pris sur lui la condamnation que méritaient nos fautes. Et il est revenu à la vie pour que nous puissions nous aussi envisager une vie nouvelle basée sur le pardon qu'il nous offre, sur la réconciliation qu'il veut entre nous et Dieu, et le fait que nous puissions vraiment ensemble avoir une relation justement avec Dieu notre Père. Si vraiment nous acceptons le Christ, c'est cela ce que nous faisons, nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Et accepter Jésus, en reconnaissant ce qu'il a été, ce qu'il a fait pour nous, c'est aussi découvrir la paix du cœur. C'est découvrir que Dieu nous pardonne lorsque nous venons à lui, en lui apportant nos vies avec ce qu'elles sont. Dieu nous accepte, Dieu nous pardonne, Dieu veut établir une relation avec nous. Dieu veut être présent avec nous chaque jour. Dieu veut nous accompagner, agir en nous. Car le Christ Jésus que nous acceptons, c'est Jésus venu vers nous, certes, mais c'est aussi Jésus, après sa mort et sa résurrection, qui est remonté au ciel auprès du Père et qui envoie son Esprit. Et c'est ainsi qu'il nous assure de sa présence au cœur de notre vie, au cœur de nos défis quotidiens. « Je suis avec vous tous les jours », a dit Jésus, et jusqu'à la fin. Et cela, il l'a dit juste avant de remonter au ciel, de remonter là où il était venu. Et il ne s'agit pas d'une présence vague, mais d'une venue très réelle, d'une communion sensible. Un chrétien, vous savez, ne prie pas dans le vide. On ne prie pas dans le vide, on s'adresse à un Dieu qui se rend présent à nous. Un chrétien sait que sa prière le relie à Dieu, même si on n'arrive pas toujours à mettre tous les mots là-dessus pour le dire. Mais ce qui compte, c'est la relation. La relation, une première composante de la foi. Mais la Bible nous dit, et le texte que nous avons lu nous dit, que cette relation, elle est appelée à devenir pour nous un enracinement identitaire. Soyez enracinés et fondés en Christ, nous dit l'apôtre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Première réponse, me semble-t-il, est de dire « je dois accorder et je peux accorder une pleine valeur à la façon dont Dieu me voit en Jésus-Christ ». La façon dont Dieu me voit, grâce à Jésus-Christ, doit devenir pour moi mon noyau identitaire, peut devenir mon noyau identitaire. On a toujours besoin de regards extérieurs pour se construire, il y a des regards qui sont plus fondateurs que d'autres. La façon dont Dieu nous voit doit devenir notre noyau identitaire. Peut le faire. Maintenant, comment Dieu nous voit-il ? Waouh ! Ça, c'est une question redoutable. Est-ce qu'il voit surtout que je ne suis pas ceci, que je ne suis pas cela ? Est-ce qu'il voit cette grosse bêtise que j'ai faite l'autre jour ? Est-ce qu'il me voit de son regard de flamme, avec toutes les exigences de sa sainteté, de l'absolu ? Pas comme cela que l'on voit Dieu. Si nous pensons d'abord comme cela, nous n'avons pas compris quelque chose d'essentiel. Car comment Dieu nous voit-il ? Il nous voit en Jésus-Christ, nous dit ce texte. À la lumière de ce que Jésus a fait pour nous. À la lumière de son amour pour nous manifesté en Jésus. Et notre noyau identitaire, ce dans quoi nous devons nous fonder, être enracinés, c'est cet amour de Dieu pour nous, un amour entier de Dieu pour nous, car il n'a pas hésité à venir vers nous, à se donner pour nous. Un amour solide aussi, bien qu'immérité. Cet amour solide, bien qu'immérité, on l'appelle dans le langage biblique et chrétien la grâce, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas, qu'on reçoit, mais qui nous est donné, qui est solide. Et on reproduit quelque chose de cela dans les relations humaines. Qu'est-ce qui donne force et identité à un enfant ? Ce savoir aimer, d'un amour entier, inconditionnel. C'est ça qui donne des ailes à un gosse pour devenir adulte. Et la Bible a soin d'ancrer cette certitude de l'amour de Dieu pour nous, chrétiens, lorsque nous ouvrons notre vie à Dieu. Et bien des textes, dans bien des textes, avant de nous dire « tu dois être ceci ou tu dois être cela », on nous dit ce que Dieu veut être pour nous. Et c'est ça ce qui doit d'abord nous fonder. Et ensuite, on peut envisager d'aller plus loin. Je vais vous lire un texte de l'apôtre Paul, dans une autre lettre qu'il a écrite à des chrétiens de Rome, chapitre 8 de ce qu'on appelle l'épître aux Romains, chapitre 8, les versets 29 et 30. Il dit « Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a ainsi prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. » Ça, c'est un fondement identitaire qui nous est donné. Qu'est-ce qui est dit de cela? Prends quelques mots. Ce que Dieu a connu d'avance. Ça veut dire, Dieu s'est intéressé à moi et s'est intéressé le premier à moi. C'est ce que veut dire Dieu nous a connus d'avance. Il s'est intéressé le premier à nous. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire, Dieu me fixe un but, il veut quelque chose pour moi. Il s'intéresse à moi au point d'avoir un projet pour moi. Et il nous veut, nous dit ce texte, semblable à l'image de son Fils. C'est cela ce que Dieu vise pour nous, former quelque chose en nous de ce qu'on a vu en Jésus-Christ. Faire cela dans ma vie, faire cela de ma vie. Et c'est à ça à quoi il travaille, à quoi il veut travailler, avec ce que je suis, avec ce que nous sommes, avec ce que tu es, Héloïse. Et c'est cela aussi que Dieu veut réaliser, rendre semblable à l'image de son Fils. Et il veut que Jésus soit le premier-né d'entre plusieurs frères, nous dit-il. On est peut-être un peu loin de l'objectif, mais quand même, il nous appelle déjà frères. Ça veut dire qu'il nous insère dans sa famille, dans son amour vraiment, de ceux à qui il se lie. Et ceux à qui Dieu fixe ce but, il les a appelés. C'est Dieu qui est venu vers moi, je compte pour lui. Il les a justifiés, nous dit l'apôtre Paul. Il me fait don de la justice de Jésus. Il me voit toujours au travers de ce que Jésus a fait pour moi. Et je peux toujours, moi, me référer à ce que Jésus a fait pour moi. Que je sois heureux de ce que j'ai été, que je sois complètement malheureux ou déçu de moi. C'est absolument suffisant pour que je sois accepté par Dieu. Je peux tabler là-dessus encore et encore. Et tout là, et cela, il les a glorifiés. Ça, c'est un mot qui dit toute la splendeur de ce que Dieu désire, toute la lumière de Dieu, celle qui est la sienne de toute éternité. C'est-à-dire, voilà, c'est cela aussi ce que Dieu veut pour nous, c'est ce vers quoi il nous conduit. Vous voyez qu'il y a là-dedans une base identitaire solide qui est donnée. Je compte pour Dieu, c'est fort. C'est acquis, c'est solide, c'est sa volonté à lui aussi. Et nous sommes appelés à puiser le fondement et la sève de notre vie dans ces réalités-là. Pour notre identité, c'est ce que Paul dit, vous devez rester enraciné dans le Christ Jésus. Enraciné, c'est tirer sa sève, hein, et fondé comme un bâtiment qui est sur des fondations solides. Voilà une base qui nous est donnée. C'est vraiment ce qui permet à un chrétien de dire « je sais, je suis en paix, je peux avancer avec Dieu dans ma quête spirituelle ». Ce n'est pas juste ma quête spirituelle en ne sachant pas vers quoi elle aboutit. Il y a quelqu'un qui lui donne un vrai fondement à cette quête, je peux y adhérer. C'est ce qui permet de prendre son envol dans la vie, parce qu'on a de bonnes racines. Alors cet envol nous est décrit quand même en des termes un peu plus concrets, par une autre image qui est quand même dans ce texte-là, l'image de la marche. Paul ne dit pas « soyez enracinés et fondés en Christ pour vous envoler ». Bon, ça aurait été pas mal, je dirais, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il dit ?« Afin de marcher, hein, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » La marche, c'est un langage très, très terrien. Hein, on est sur le sol de la réalité. Et la foi ne nous sort pas de la vie réelle. C'est ça ce que dit ce texte. La foi ne nous sort pas de la vie réelle. Au contraire, elle nous y ancre, marcher, comme un montagnard qui marche, qui assume chaque dénivelé. Marcher comme celui qui a un but et qui, pas à pas, avance vers ce but. Mais Paul précise, marcher en lui. Et dans le langage biblique, ça veut dire avec lui et en comptant sur ce qu'il est pour vous. Concrètement, ça veut dire vivez votre vie quotidienne, mais comme un compagnonnage. Sachez que là où vous allez, sachez que dans ce que vous faites, Dieu est là. Cherchez à l'intégrer, cherchez à être relié à lui dans ce que vous faisiez dans la marche quotidienne. Cherchez aussi à vivre selon les valeurs de l'Évangile. L'amour, le respect, le service des autres, le souci de la justice, la vérité, la droiture. Un très beau texte de l'Ancien Testament résume cela en quelques mots. C'est le prophète Michée qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher en lui. Ce que l'on sait de l'amour de Dieu pour nous est appelé à devenir un accompagnement pour la vie de tous les jours. Et marcher dans le Christ, c'est comme développer le fil d'une amitié tout au long de l'existence. C'est simple, c'est beau, une amitié. Ça ne fait pas toujours de grands discours, de grandes déclarations. C'est un lien profond. C'est un lien qui s'exprime dans les grandes occasions comme dans les gestes les plus simples. Cela accompagne que l'on soit près ou que l'on soit loin. Ça donne aussi une liberté d'être, la possibilité d'une relation dans une confiance entière. Et cela accompagne dans la durée, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce que l'on partage. Et marcher en Dieu, marcher en lui, c'est faire de la relation avec Dieu ce genre de connivence, de partage au fil de notre vie concrète. Ça veut dire que demain sera pour toi, Héloïse, comme pour nous tous, un lundi comme d'autres lundis, avec des responsabilités de lundi, avec des exigences de lundi, avec des collègues de lundi. Mais ce lundi, tu pourras le vivre et nous pourrons le vivre accompagnés de Dieu, heureuse de ce qu'il est avec toi, certaine de ce qu'il est là pour toi. Ce qui est vrai pour lundi est vrai pour mardi. Marcher en Christ, vivre la vie de tout le jour dans ce compagnonnage. Ce sera aussi progresser, bien sûr, dans le domaine spécifique qu'est la foi, en recevant, en découvrant la parole de Dieu de plus en plus. On parlait d'un projet de Dieu qui veut former le Christ en nous. C'est tout un travail, mais c'est quelque chose de beau que Dieu veut faire. Et marcher en Christ, c'est se rappeler que sur ce chemin, on avance pas à pas. Et Dieu accepte que l'on avance pas à pas, qu'on ne soit pas tout de suite au bout. On marche, on avance, et Dieu est là. Et Paul termine par une dernière notation. Il dit « et abonder en actions de grâce ». Un fondement, une marche, une joie. Le mot « action de grâce » peut sembler un peu étrange en français courant. En réalité, il veut dire reconnaissance, gratitude. La foi, c'est aussi un regard sur la vie. Nous ne considérons pas que tout nous est dû. Nous ne considérons pas que tout nous est dû, mais nous veillons à discerner, à apprécier tout ce qui nous est donné, tout ce qui est cadeau, et tout ce qui est tout spécialement pour nous, que l'on peut considérer comme cadeau de Dieu qui est source de tout bien. Et vivre dans la foi, c'est vivre avec ce regard sur tous les dons que Dieu nous fait. Un chrétien n'est pas un blasé de la vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, qui cultive la reconnaissance, parce qu'il sait que cette vie, qui est parfois bien difficile dans notre monde, cette vie est aussi semée, parsemée de grâces, d'instants donnés, de choses belles et simples qui éclairent tout, et que cela, c'est un don de Dieu. C'est une manifestation de l'amour de Dieu, de son soin pour nous, de sa bienveillance. Abonder en gratitude, nous dit l'apôtre Paul, ce qui veut dire que les bienfaits de Dieu sont divers et sont renouvelés. Ils se découvrent tout au long de la vie avec Dieu et ils nous permettent d'abonder en gratitude. La vie avec Dieu se vit sous le signe de la joie avec ce regard-là. Un fameux auteur chrétien qui s'appelle C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, hein, on a vu les films là, récemment, a donné pour titre à son autobiographie « Surpris par la joie ». Surpris par la joie. C'est l'irruption de la foi, c'est l'impact de la foi dans sa vie qu'il décrit avec ces mots. Eh bien, je te souhaite, Héloïse, et je nous souhaite à tous d'être aujourd'hui, demain, chaque jour, surpris par la joie. Amen.